Ce matin, j'ai entendu un accent du Borinage, j'ai entendu un accent du Canada, quelques accents de Liège, et je vous propose maintenant un accent de la Louvière, puisque c'est de cette région-là que je viens. Merci en tout cas de m'accueillir et que le Seigneur bénisse ces moments. Je suis ancien, donc dans une assemblée de frères à Carnières, où il y a 50 membres environ. Et nous remercions le Seigneur pour cette assemblée qui grandit. Et c'est ce que j'espère vraiment également pour la vôtre, pour que le Seigneur puisse également la bénir. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien, tout d'abord dans un ou deux textes. Le premier dans Philippiens, dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2. J'ai prié plusieurs fois le Seigneur pour qu'il me mette à cœur un message pour vous ce matin. Et plusieurs me sont venus à l'esprit et il me semblait que le Seigneur me demandait de vous apporter quelque chose qui fait partie de votre quotidien. C'est vrai que nous sommes chrétiens dans un monde hostile et nous devons y vivre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples. Et ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on regarde ensemble vers le Seigneur pour qu'il nous montre son exemple de vie dans des circonstances difficiles où il est passé. Et je vous propose ce matin trois choses qu'on n'aime pas trop et pourtant que le Seigneur va utiliser pour nous faire grandir, pour nous modeler à l'image de Jésus. Et le thème de cette prédication ce matin, c'est le Seigneur veut nous modeler à son image. Philippiens chapitre 2, verset 5. C'est un passage bien connu, je crois. Mais on lira que le verset 5, bien qu'il mérite d'être lu plus loin. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Puis le texte continue, parle de son humilité, mais c'est plus le verbe que je voudrais souligner aujourd'hui. C'est d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Un autre texte, je le prends dans le livre des Romains au chapitre 8 et au verset 29. Je le lirai dans une version de la parole vivante. Donc si vous n'avez pas cette version, vous pouvez suivre dans votre Bible ou sinon vous pouvez écouter. Vous savez que parole vivante a des mots un peu différents. Bien sûr, il dit la même chose, mais les mots sont un peu différents. Et j'ai retiré de ce verset aussi un verbe. Je vous le dis dans parole vivante, Romains 8, 29. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils, et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'ils soient l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Dieu nous a créés pour que nous puissions ressembler à Jésus. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que ressembler à Jésus, est-ce que c'est l'objectif de votre vie? Merci de répondre par un amen. Et puis, c'était vraiment le dessein de Dieu. Je prends encore un ou deux autres passages Éphésiens chapitre 1. J'aurai beaucoup de passages à lire. Vous pouvez noter si vous voulez, mais je n'attendrai pas que vous ouvriez vos Bibles, parce que vous allez voir, il y en a quelques-uns, donc vous pouvez les noter ou bien écouter la lecture. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, c'est-à-dire en Jésus, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, comme Jésus. Dieu veut vraiment que nous ressemblions à son Fils, que nous portions son image. C'est la raison aussi pour laquelle il nous a donné son esprit qui est en nous. Et cet esprit nous donne son fruit. Vous connaissez le fruit d'esprit qui est, quelque part, le caractère même de Jésus. Nous lisons en Galates chapitre 5, verset 22, « Le fruit de l'esprit, écoutez les neuf caractéristiques ici, moi j'y vois vraiment l'image du Seigneur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est une image du Seigneur également. Dieu veut que nous croissions à tous égards en celui qui est notre chef, Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a donné des hommes qualifiés et doués. Dans Éphésiens chapitre 4, il y a une liste là de qualifications que l'Esprit donne à certains frères dans l'Église. Et je vous lis ce passage d'Éphésiens 4, verset 11. « C'est lui qui a donné les uns comme des apôtres, d'autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former des saints aux tâches, aux services en vue de, premièrement, l'édification du corps de Christ. Deuxièmement, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Troisièmement, à la maturité spirituelle, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Christ est toujours là comme un exemple. Si nous désirons devenir des chrétiens matures, des disciples, ayons nos regards fixés vers le Seigneur. Il veut que nous mûrissions, que nous nous développions afin d'atteindre cette maturité spirituelle, celle qui va nous faire ressembler à son Fils Jésus. Et si nous coopérons avec lui, comme nous l'avons lu tout à l'heure, il va nous façonner à son image. Mais, pour ça, Dieu peut utiliser des choses qu'on n'aime pas. Et je voudrais venir maintenant à trois choses qu'on n'aime pas vraiment, avec lesquelles Dieu va nous façonner pour que nous puissions ressembler davantage à son Fils. Tout d'abord, la première chose que Dieu permet, ce sont les épreuves. La Bible dit, Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toutes les bonnes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Vous lisez avec moi ou pas? Ah, ça me semblait bien. C'est pas juste ce que je lis. C'était pour faire un petit test, pour voir si vous suivez. Vous devez suivre aussi, hein, le texte. Non, le texte dit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose, ça veut dire les bonnes, mais aussi les mauvaises, les douloureuses, nos erreurs, nos bêtises. Dieu va utiliser toutes les circonstances pour nous rendre conformes à son Fils Jésus. Ces épreuves, parfois douloureuses, seront permises par Dieu afin de nous rapprocher de lui. Les épreuves ne sont pas là pour nous blesser, frères et sœurs. Elles sont là pour nous aider. On lit Romains chapitre 5, verset 3. J'ai encore pris parole vivante. Romains 5, 3. Mais il y a plus, dit l'apôtre. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés, nos détresses, nous triomphons car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. Et la Bible continue en disant « La patience nous affermit et développe notre fort caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime, il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. Chaque problème, chaque épreuve a un objectif. Et puisque nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, voyons quelle a été sa réaction quand le Christ lui-même a passé par une épreuve douloureuse. Et chaque fois, je voudrais vous proposer comment le Seigneur en est sorti devant l'épreuve. Et je prendrai Marc, chapitre 14, verset 32, où ce moment que vous connaissez tous, on le lit souvent avant la Sainte-Cène, ce moment appelé la passion à Gethsémané. Et on va voir à quel point le Seigneur va être éprouvé là et voir quelles leçons on peut tirer de son attitude, parce que la parole nous demande d'avoir que nous ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je lis Marc 14, 32. Ils arrivent à un petit domaine nommé Gethsémané. Jésus a dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et bientôt, il est comme submergé de crainte et d'angoisse. Il se met à trembler et dit à ses compagnons, « Mon âme est accablée de tristesse, une tristesse mortelle. Restez ici éveillés. » Il s'éloigne de quelques pas, se jette face contre terre et supplie Dieu que si possible, cette heure de souffrance et d'angoisse lui soit épargnée. « Père, implore-t-il, pour toi tout est possible. Détourne de moi cette coupe, écarte cette épreuve. Toutefois, ne fais pas ce que je désire, mais que ta volonté se fasse. » Jésus affronte ici une épreuve terrible. La Bible donne même dans un autre passage, c'est dans Luc au chapitre 22, nous dit même que l'agonie était si forte que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Je ne sais pas si vous avez déjà passé par une épreuve pareille. Moi, en tout cas pas. Je ne suis jamais passé par une épreuve si terrible où des grumeaux de sang tombaient par terre. Et quel est l'exemple du Seigneur là, devant cette épreuve terrible ? Eh bien, le Seigneur prie, il s'adresse à son Père, et il lui dit quelque part, « Mais Seigneur, est-ce que c'est possible, toi qui peux tout, est-ce que c'est possible que je puisse passer cette épreuve ?» Nous sommes à la veille de son exécution, le Seigneur Jésus va être mis à mort pour nos péchés, il va non seulement souffrir physiquement, mais il va être identifié au péché. Il va être maudit. Galates chapitre 3, verset 13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Il va être condamné à mort par Dieu, par amour pour nous. C'est une épreuve terrible. On voit que le Seigneur prie. Et il dit ce que je désire avant tout. Après avoir prié pour voir si le Seigneur pouvait quelque part l'aider, il dit « Mais Seigneur, avant tout que ta volonté se fasse. » Ce que je désire avant tout, c'est que ta volonté se fasse selon le plan que tu as établi pour ma vie. C'est une parenthèse que je donne, mais le Seigneur savait très bien que Dieu avait un plan pour sa vie. Et pourtant, il passe par un moment difficile. Voulons-nous ressembler à Jésus pendant nos moments difficiles ? Ce que nous apprenons ici, c'est que nous avons le droit de demander d'être délivrés de notre souffrance. On peut prier pour ça. Il est normal de crier à Dieu et de lui faire part de notre épreuve. Hébreux 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Et de lui dire « Père, tout est possible pour toi, tu vois comme je souffre. » Mais surtout, d'ajouter comme le Seigneur Jésus « Mais toutefois, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. » Tu sais, Seigneur, ce qui est le mieux pour moi. Je me soumets à ton plan d'amour pour moi. Donne-moi la force et le courage pour me soumettre à ta volonté. Je désire de tout cœur renouveler ma foi en toi, sachant que tu contrôles toute ma vie. Je t'ai confié cette vie, je te l'ai confiée lors de ma nouvelle naissance. Tu es mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés, c'est que au travers de l'épreuve, le Seigneur attend de nous que nous renouvelions notre foi en lui. Et que nous lui disons, Seigneur, tu vois comme je souffre, tu vois ma difficulté. Si c'est ta volonté, permets-moi de sortir de là, mais je sais que tu as tout en contrôle et je veux renouveler ma foi envers toi. Je sais que tu m'aimes et si tu as permis cette épreuve, c'est pour que je puisse apprendre une leçon. Et cette première leçon, Seigneur, c'est de te faire confiance, que ton plan agisse. J'ai confiance en ton plan pour moi. Quelle sera la qualité de notre relation avec le Seigneur quand viendra la prochaine épreuve? Deuxième chose qu'on n'aime pas trop et que le Seigneur permet que nous ayons, ce sont les tentations. Soyons clairs tout d'abord vis-à-vis de la tentation. C'est Satan qui nous tente. Dans le but de nous faire du mal, Dieu ne nous tente jamais pour faire le mal. Il permet que le diable nous tente dans le but de nous faire ressembler à son fils Jésus, si du moins nous faisons le bon choix face à la tentation. Je me laisse façonner par le Père et j'acquiers l'attitude de Jésus face à la deuxième chose qu'on n'aime pas trop, la tentation. La tentation n'est pas un péché. Jésus a été tenté et il n'a pas péché. On va lire, si vous voulez bien, la tentation de Jésus. Matthieu chapitre 4. Et puisque nous devons avoir l'attitude du Seigneur, avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous allons voir comment le Seigneur, lors de sa tentation, s'en est sorti. Matthieu chapitre 4, verset 1. « Alors que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le... » Donc c'est bien le diable qui nous tente. Tenté par le diable. « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. On remarque qu'à trois tentative, l'adversaire va essayer de faire chuter le Seigneur Jésus. Et celui-ci répond chaque fois par une citation de la parole de Dieu. Il fait le bon choix face à la tentation. À nous de prendre exemple sur lui quand nous sommes ainsi sollicités par le diable à faire le mal et de lui répondre « Arrière de moi, Satan, la parole de Dieu déclare que... » Mais connaissons-nous la Bible ? Combien de versets connaissons-nous par cœur ? Rick Warren a dit cette phrase que j'ai notée. « Si vous n'avez aucun verset biblique en mémoire, c'est comme si vous n'aviez aucune balle dans votre revolver. » Le Seigneur permet que nous soyons tentés. Et la tentation est un test. Il y a toujours deux façons de répondre à la tentation. Quand nous choisissons le bon choix, nous grandissons à chaque fois dans la foi à l'image de Jésus, notre Seigneur. Quand nous faisons le mauvais choix devant la tentation, eh bien nous désobéissons et nous tombons, nous nous décourageons. Dans l'Épître de Jacques, verset 1, chapitre 1, verset 12, il est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie et le Seigneur, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Premièrement, les épreuves, elles sont là pour que nous puissions dire au Seigneur « Seigneur, aide-moi pendant cette épreuve, aide-moi à la supporter, tu l'as choisie. » Mais je veux renouveler ma foi. Devant la tentation qui nous tombe à chacun, et ne croyez pas parce qu'on n'est plus ancien dans la vie chrétienne. Grâce à Dieu, j'ai 51 années de nouvelle vie. Ne croyez pas parce qu'on a acquis une certaine maturité ou un long chemin avec le Seigneur, ne croyez pas qu'on ne soit plus tenté, mes bien-aimés. Le diable rôde autour de chacun d'entre nous pour essayer de nous faire tomber. Mais résistons à lui. Faisons comme le Seigneur, ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Prenons la parole de Dieu, lisons-la, méditons-la, apprenons-la. Et pendant qu'on est en train de lire sa Bible, le diable ne peut pas nous attaquer. Et quand il nous attaque, à nous de répondre avec la parole de Dieu comme soutien. Troisième chose qu'on n'aime pas trop, ce sont les critiques, les médisances, les blessures verbales. Et Dieu va aussi permettre une troisième chose qui va nous faire du mal quelquefois. Il va utiliser les gens qui nous entourent et qui veulent délibérément nous blesser. Et cela pour nous apprendre une autre grande leçon qui va nous faire ressembler au Seigneur. Nous n'aimons pas d'être critiqués, accusés faussement, blessés par des paroles fausses dites à notre sujet, surtout si en plus ça vient des frères et des sœurs dans la foi. Ici, nous allons être confrontés avec un outil qui va nous façonner, nous faire mal quelquefois, mais que Dieu va utiliser pour nous modeler à l'image de son Fils. Dans la prière modèle que le Seigneur nous a laissée, qu'on appelle couramment le Notre Père, au verset 12 de Matthieu 6, il y a cette phrase au milieu de la prière qui dit « Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Supporter les blessures sans se venger est une étape importante et difficile, mais combien elle nous rapproche de Jésus. Nous allons voir le Seigneur, comment il s'en est tiré devant cette épreuve. Et supporter les blessures, ça veut dire être incompris, être critiqué, être jugé, être blessé intérieurement, voire même physiquement. Le Seigneur n'a pas été épargné à ce sujet. Voyons comment il a réagi alors qu'il était pendu sur la croix infâme. Et nous lisons dans Matthieu 27, au verset 39. Écoutez, ça m'émeut chaque fois que je lis ce passage. Matthieu 27, 39, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rétablis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les chefs, avec les scribes et les anciens, c'était les gens religieux de l'époque, c'était les gens qui étaient en vue dans le temple, qui faisaient les services dans le temple, c'était les gens que tout le monde, quelque part, admirait, c'était les gens religieux de l'époque. Eh bien, ils se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que le Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Est-ce que vous avez déjà été insulté d'une telle manière? Est-ce qu'on a déjà dit un tel mal de vous? Quelle a été la réponse du Seigneur? Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Pierre, dans sa première épître, au chapitre 2, au verset 23, dit ceci. « Lui, Jésus, qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ayez les sentiments qui était en Jésus-Christ. Comme le Seigneur, nous allons être blessés dans la vie. Et si nous désirons devenir semblables au Seigneur, nous allons devoir apprendre à pardonner. Comment pouvons-nous apprendre à pardonner si nous n'avons jamais été offensés? L'Église locale, quelque part, est un bel endroit pour appliquer ces choses. C'est la famille de Dieu. Nous y venons la plupart du temps en famille. L'Église locale est une famille de familles. Et l'Église locale appartient à une famille de familles de familles, puisqu'il y a également des associations d'Églises. Et c'est dans cette famille que le Seigneur nous apprend particulièrement à pardonner, à nous pardonner les uns les autres, à nous aimer les uns les autres. Quand nous sommes offensés, de pardonner et de dire « Seigneur, c'est ce que Jésus a fait, Seigneur, je remets ce problème entre tes mains. Je m'en remets à toi, toi tu juges justement. » Souvent dans la Bible, l'exhortation à pardonner est réciproque. Car rien ne dit qu'un jour, nous n'offensons pas nous-mêmes un frère ou une sœur dans la foi. Pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous les uns les autres. Conclusion. Dieu utilise les épreuves de la vie, les tribulations, pour nous apprendre à lui faire confiance. Jésus a été éprouvé similairement. La Bible dit, Hébreux chapitre 5, verset 8, « Ainsi, bien qu'il était fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Deuxièmement, Dieu permet à l'adversaire de nous tenter pour nous apprendre à obéir à sa parole. Le Seigneur a été tenté similairement et même dans tous les domaines de la vie. Vous savez ça, que le Seigneur a été tenté dans tous les domaines de la vie. Je ne sais pas si dans... Je me suis souvent demandé si dans la vie, dans notre vie, si on sera un jour tenté dans tous les domaines. En tout cas, la Bible affirme ceci, Hébreux chapitre 4, verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre le péché. Hébreux chapitre 2, verset 18. Comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ça, c'est une belle promesse pour nous, mes bien-aimés. Le Seigneur, il est là, dans toutes les circonstances, même dans les tentations. Et je vais vous raconter une petite histoire concernant la tentation. Vous savez, on prend souvent comme excuse, c'est plus fort que moi. Je n'ai pas résisté à cette tentation-là. Il y avait un sultan dans l'Inde lointaine qui était le chef, le juge de toute la ville. C'est devant lui que passaient tous les jugements. Et il y avait déjà plusieurs fois qu'un jeune garçon avait été accusé de vol dans les marchés. Il se promenait dans les marchés, dans les rues, et il volait. Et c'était déjà plusieurs fois que ce garçon était arrivé devant le sultan. Et le sultan, il dit, « Mon garçon, cette fois-ci, c'est la dernière fois que je te donne une chance. Voilà ce que tu vas faire. Je vais te donner un vase d'huile que je vais remplir à ras-bord. Je vais mettre deux de mes gardes derrière toi. Et tu vas parcourir toute la ville, là où tu es tenté, soi-disant, puisque tu dis que tu ne peux pas faire autrement. Là où tu es tenté, tu vas passer dans toutes ces rues, au travers du marché, etc. En tenant ce vase d'huile rempli à ras-bord. Et si une goutte tombe en bas du vase, tu auras affaire à mes gardes qui vont te suivre. Je t'envoie le matin et au soir tu reviens pour voir si tu as renversé l'huile. Et en effet, il s'est promené. Et le soir, en revenant, il était toujours là avec sa fiole d'huile, avec les deux gardes derrière lui. Et le sultan lui demande, « Alors, est-ce que tu as été tenté de voler ?» Bah non, qui dit le gamin, j'avais toujours mes yeux fixés sur la fiole d'huile pour qu'il n'y ait rien qui déborde. C'était une belle leçon pour lui. Et la parole de Dieu nous dit que, Hébreux chapitre 12, verset 2, que nous devrions avoir nos yeux fixés sur Jésus. Si nous avions, mes bien-aimés, comme la Bible le dit et nous demande, nos yeux fixés sur Jésus, on serait épargné de bien des tentations. Parce qu'en communion avec lui, et c'est pour ça que je vous exhorte ce matin à cultiver vraiment, à cultiver votre relation avec le Seigneur. Prendre du temps avec lui. Vous levez un peu plus tôt si vous n'avez pas le temps. Arrangez-vous dans votre journée. J'ai été très occupé dans ma vie également. Aujourd'hui, je suis à la retraite, ou presque à la retraite, semi-retraite. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments dans ma vie où, quand on est marié, on pense à sa maison, à sa famille, son travail, etc. Et on a des vies très, très bouleversées. Mais le Seigneur attend tout de même. Le Seigneur attend tout de même que nous ayons quelques minutes pour lui. Un moment au calme. Matthieu 6 nous dit, le Seigneur t'attend dans ta chambre, va dans ta chambre, ferme la porte, coupe ton GSM, éteins le Wi-Fi et rejoins-moi quelques minutes dans une communion avec moi. Viens me dire combien tu m'aimes. Viens me dire combien tu as besoin de moi. Viens me dire que tu as besoin de moi, dit le Seigneur, pour cette journée qui s'ouvre devant toi. Et moi, je te dirai aussi dans ce moment de silence, qu'est-ce que j'ai réservé pour toi, les œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi aujourd'hui. Et rester connecté avec lui. Vous savez, il y a une guitare là, la guitare, elle a un jack. Vous savez ce que c'est qu'un jack? On met ça dans la guitare et la guitare, elle est connectée. Elle passe dans la sono et on l'entend dans les haut-parleurs. Mais si vous déconnectez le jack, il n'y a plus rien. Il n'y a que le son propre de la guitare. Le Seigneur désire tellement que nous restions connectés avec lui. Disponibles n'importe quand, dans la journée, faire un petit clin d'œil au Seigneur. Il y a des gens qui me demandent quelquefois, est-ce qu'il faut prier quand on mange un dessert ou un fruit, à votre avis? Pourquoi pas dire au Seigneur, mais Seigneur, quelle bonne pêche, quel bon goût, Seigneur, je te remercie. Voilà, un moment de communion avec le Seigneur. Le Seigneur attend de nous cette communion et nous serons épargnés de beaucoup de tentations. Et troisièmement, le Seigneur va utiliser les offenses des frères et sœurs pour que nous puissions apprendre à pardonner. Je relis en conclusion le premier verset que je vous ai lu et j'arrête là. C'était Romains chapitre 8, verset 29 dans la parole vivante. Vous pouvez voir que ce verset prend du relief suite à notre partage. En effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à partager son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Ressembler à Christ, est-ce que c'est votre objectif? Amen.